On va parler un peu de Hanouka. C'est ça qui est prévu, non? Hanouka, il y avait une guerre. Avant d'allumer les bougies, et après d'avoir allumé les bougies, il y avait une immense guerre qui a duré 25 ans. Les Hachmanim, ils ont déclaré la guerre contre les Grecs et ils ont bousculer les Grecs en dehors d'Eretz Israël. Et cette guerre est décrite dans un livre qui s'appelle Hashmonaim, qu'on peut trouver, Maccabim, qu'on peut trouver sur Internet, traduit en français aussi, entre autres. Et c'est une guerre très dure. Bataille après bataille. Des terribles batailles. Matityahu et ses enfants ont décidé, il n'y a pas de solution, il faut prendre les armes. Cette guerre est très spéciale. Elle est très curieuse. Parce que toutes les guerres qui sont faites par les Juifs, ils étaient normalement pilotés par un roi. Et si possible, ce roi venait de la tribu de Yehuda. Lo yasur shevet mihuda umechokek meben raglav. Yaakov Avinu, il a promis à la tribu de Yehuda, c'est lui qui sera nommé comme celui qui doit défendre le peuple juif. Un roi, il est fait pour faire l'ordre à l'intérieur du pays et défendre le pays vis-à-vis des agressions qui viennent de l'extérieur. David Melach, il a mobilisé une armée et tous les rois dont le peuple juif était dirigé par le tribu de Yehuda. Et c'est lui qui doit défendre le peuple juif. Maintenant, le roi juif, il ne mobilise pas que de la tribu de Yehuda, il mobilise de toutes les autres tribus. Sauf une tribu, il ne mobilise pas. C'est la tribu de Lévi. Lévi n'a pas le droit. La tribu de Lévi, il est dispensé de la guerre. Il est réservé, comme il dit le Rambam, de la Med, pour enseigner la Torah aux Juifs. Yoru mishpotecha li Yaakov et Toratcha li Israël. Lui, il doit faire le travail au Beth Amikdash. Il doit enseigner la Torah. Il ne faut pas qu'il fasse la guerre. C'est incompatible avec la mission de Lévi. Or, les Hashmonaïm sont des tribus de Lévi. Les Kohanim sont de la tribu de Lévi. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un accident de l'histoire. Quand personne voulait faire la guerre, alors eux, ils ont décidé de faire la guerre. Oui, sûrement c'est vrai. Mais est-ce que cette guerre est prévue dans la Torah, qu'il sera fait par la tribu de Lévi? Est-ce qu'ils ont reçu une permission? Est-ce qu'ils ont demandé? Alors on va dans la parashat Zot HaBracha. Moshe Rabbeinu, avant de mourir, donnait à chaque tribu une bénédiction. Qu'est-ce qu'il a dit à Lévi? Ou le Lévi amar tumecha v'urecha l'ish chassidecha. Asher nisito b'masa tevreo l'mei meriva. Lévi, c'est ish chassidecha, c'est l'homme de ta piété, ton homme pieux, Lévi. Asher amar l'aviv l'imo l'oriti v'techav l'okir v'etbanav l'oyoda ki shamru im tsechom ritra yinsoru. Il ne connaît pas ni père ni mère. Il n'a pas de lien affectif. Il est capable d'aller contre sa propre famille. Ki shamru mitzotecho ritra yinsoru, parce qu'il gardait l'alliance. Après Moshe Rabbeinu, il dit des paroles, Barech Hashem Chelo, des paroles étonnantes. Barech Hashem Chelo, que Dieu bénit son armée. Au foie Aliadav Tirtse, qu'il accepte agréablement les œuvres de sa main, Mechatz Matnaim Kamav ou Mesanav Minyekomun, qu'il casse les anges de ceux qui s'élèvent contre lui, ou Mesanav et ses ennemis Minyekomun, qui ne peuvent plus se lever. Ici, Moshe Rabbeinu bénit la tribu de Lévi, l'armée de la tribu de Lévi, pour qu'ils écrasent la hanche de leurs ennemis, pour que l'ennemi ne peut plus se lever. Ça veut dire que Lévi doit faire une guerre écraser les ennemis. Mais qui est l'ennemi que Lévi doit écraser? Alors Rashi sur place apporte la Gemara, Zou Matityahu Vyud Bet Banaf. Il s'agit des Matityahu et les 12 enfants. Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, a dit que Lévi doit porter Urim Vetumim au Bet Amikdash, mais il y a une guerre qui l'attend. Une guerre qui l'attend. Alors il y avait des centaines de guerres, des batailles que les Juifs ont fait. Et jamais Lévi participe. Une guerre est réservée pour lui. Pourquoi? Pourquoi cette guerre était réservée pour la tribu de Lévi? Alors on regarde un petit peu la Haftarah. La Haftarah de Shabbat Chanukah, c'est le prophète Zacharia qui est un prophète pendant la construction du deuxième Beth Amikdash. L'histoire de Chanukah se passe au milieu de l'époque du deuxième Beth Amikdash, 200 ans après la construction. 212 ans après la construction, 208 ans avant la destruction. Très bien. Il se passe l'histoire de Chanukah. Ce prophète Zacharia, il est en état de transe. Et qu'est-ce qu'il voit? Le prophète raconte comme ça. Il voit le Kohen Gadol habillé avec des habits sales. Qui est le Kohen Gadol de l'époque? Le premier Kohen Gadol de la deuxième Beth Amikdash était Yeshua ben Yehotzadak à Kohen Gadol. Il était habillé avec des habits sales. Il voit dans le rêve, au ciel, il est habillé avec des habits sales. Il entend l'ange de dire, eh bien, qu'on lui change les habits, qu'on lui mette des habits propres. Et on habille Yeshua et Kohen Gadol avec des habits propres. Après, il entend l'ange dire, toi, Yeshua Gadol, fais attention. Si tu marches droit, tu as accompli la Torah Mitzot comme il faut, c'est toi qui gères cette maison. Très bien. On ne voit pas très bien à quoi ça concerne les habits sales, des habits propres. Et là, le rêve, il continue. D'un coup, le prophète Zacharia, il voit un chandelier en or, avec 7 lampadaires. À gauche et à droite, il y a 2 oliviers. De ces 2 oliviers, dégouline de l'huile et ça remplit les 7 lampadaires. Alors le prophète, il dit à l'ange, qu'est-ce que ça signifie? Alors l'ange, il dit, mais tu le sais très bien. Le prophète, il dit, j'ai rien compris. Non, je comprends pas. Ça signifie quoi? Je sais pas. Alors, l'ange dit au prophète, mais ça c'est un message que tu dois transmettre à Zerubbabel. Zerubbabel était le premier roi juif du deuxième Beth Amikdash. Tu comprends pas que c'est un message au roi juif, Zerubbabel? Ah, c'est un message qui dit quoi? C'est pas chaud. Ça n'est pas avec la force, ça n'est pas avec l'armée, mais c'est avec un esprit, il dit, le Dieu des armées. Ça y est, maintenant c'est clair. Maintenant c'est clair. Je veux le Kohen Gadol avec des habits sales, on lui met des habits propres. Si tu respectes la Torah, tout va être bien. Et les oliviers font dégouliner de l'huile dans un chandelier en or, eh bien, c'est un message au roi que ce n'est pas avec la force, avec l'armée, mais avec mon esprit. Mais ça rime à quoi, tout ça? C'est du japonais, du chinois. C'est du chinois. Et pour l'ange, c'était tellement pas chaud que le prophète comprend le message. Il dit, mais tu le sais très bien, même si je ne l'explique pas. Tu peux le comprendre tout seul. Et le prophète dit, j'arrive pas à comprendre. Alors il lui lance une phrase. « Ah, maintenant, tu as compris !» Mais je n'ai toujours pas compris. Donc, ici, il se passe des choses extraordinaires. Le roi juif doit défendre le peuple juif avec une armée. Ça, c'est le travail d'un roi. Le dernier roi juif de la tribu de Juda, il s'appelait Yechonia. Il est parti avec Nebuchadnezzar en exil. Et là-bas, il y a eu un enfant qui s'appelle Shaaltiel. Et Shaaltiel a un fils qui s'appelle Zerubbabel. Et Zerubbabel, il est revenu à Yerushalayim pour construire le deuxième Mikdash avec le prophète Haggai, Zacharie et Malachi, Ezra, Nehemia, Zerubbabel, Zerubbabel, c'est le roi. Nous, quand il y a un roi, la première des choses que le roi il doit faire une armée pour défendre les Juifs de tout envahisseur. Or, ici, il se passe un événement que le prophète, il voit un chandelier en or, avec sept lampadaires. Ça veut dire quoi? C'est la menorah au Beth Amikdash. Ça, tout le monde comprend. Et deux oliviers, il y a l'huile qui dégouline. Oui, c'est l'huile d'olive avec laquelle on allume. Là, il y a un message. Un message de quoi? Qu'il faut transmettre à Zerubbabel. À Zerubbabel, je dois transmettre à Zerubbabel quoi? Mais que ce n'est pas avec la force, pas avec l'armée. Toi, Zerubbabel, tu veux faire une armée parce que tu penses au deuxième Beth Amikdash, le peuple juif doit être défendu avec une armée. Niet. Ça n'est pas avec l'armée, pas avec la force. C'est avec mon esprit que le peuple juif sera défendu. Beruchi, ruchi, c'est Ruach HaKodesh. Le peuple juif à l'époque du deuxième Mikdash sera défendu avec Ruach HaKodesh. Et chez qui il y a ce Ruach HaKodesh? Chez celui qui allumera la menorah. Qui allume la menorah? Le Kohen Gadol. Mais qu'est-ce qu'il est dans la première partie de la transe? Il y a quoi? Il y a le Kohen Gadol, il joue à Kohen Gadol. Il est habillé avec des habits sales, ça veut dire quoi? La Gemara explique. Il y a un pasouk dans Sefer Ezra. Il est écrit quand les Juifs sont revenus en Eretz Israël. Ezra, il a remarqué qu'il y a des Juifs mariés avec des femmes interdites. Des Juifs qui ont marié avec des goyotes. Ou des Kohanim qui sont mariés avec des femmes converties. Entre autres qui? Les enfants de Yeshua Kohen Gadol. Comme ça dit le texte. Yeshua Kohen Gadol, Yeshua Ben Yotza Kohen Gadol, il y avait des enfants mariés avec des femmes converties. Et le texte, il dit, Ezra, il a dit, vous divorcez et vous prenez des femmes cachères. Ça, c'est ce que Zachar, il a vu, la Gemara nous dit, que le prophète, il a vu le Kohen Gadol au ciel, habillé avec des habits sales, ça veut dire sa famille est sale. Et c'est inadmissible. C'est une catastrophe. On croit que c'est une catastrophe. Parce qu'un Kohen Gadol qui a des enfants qui sont Kohanim, qui se marient avec des femmes interdites, les petits-enfants ne sont pas Kohanim. Les halal, le prophète, il voit, il faut lui changer les habits. Ça veut dire, toi, prophète, tu dois tout faire pour que les enfants de Kohen Gadol, ils renvoient les femmes. Et dans Ezra, c'est marqué qu'ils ont renvoyé leurs femmes. Ils ont pris des femmes cachères. Et là, l'ange, il dit au Zacharia, dis à Yeshua, si tu marches droit dans mes chemins de la Torah, Kouamar Hashem Tzvakot, Imidrachai Teler, sir sur ma route, tu marches, Vimet Mishmarti Tishmor, tu gardes ma garde, Vegamata Tadinet Beti, c'est toi qui vas gérer ma maison. La maison de Beth Amikdash, ça veut dire tu seras Kohen Gadol, et tes enfants seront Kohen Gadolim, et tes petits-enfants seront Kohen Gadolim. Vegam Tishmor et Tchatzarai, Venata Tilachmal, Chim Benom de Eile, eh bien tu fais partie des anges célestes. Shmana Yeshua Kohen Gadol, écoute bien. Ata verecha ishu elefnech et ta et tes copains, chanim sa les arrêts qui sont devant toi, kan shemo feteima, ki hine ni meivit avdi tzemach. Viendra ici, il y a une chance, tzemach, ça veut dire, il y avait une chance que Mashiach peut venir à cette époque. Si les Juifs, ils auraient mérité, ils auraient pu avoir Mashiach à l'époque. Mais bon, c'était pas le moment après. Et après, tout de suite, on change l'histoire du chandelier. Ça veut dire que Zecharia a reçu un message que la famille de Kohen Gadol doit être pure. C'est archi important. Pourquoi? Parce que chaque juif doit respecter la Torah, oui. À plus forte raison qu'on est Kohen Gadol. Oui, c'est aussi juste. Mais chaque péché qui existait au peuple juif, le prophète a reçu un message de dire du moussard. Il y avait d'autres juifs aussi qui n'étaient pas de la Medvav Tzadikim. Et pour fin Klali, bien sûr, Dieu dit au prophète, tu dois prêcher la bonne parole à tous les juifs, évidemment. Non, mais il y a eu quelque chose de spécial à Yeshua Kohen Gadol. toi et tes enfants, vous devez respecter bien la Torah. Il y a quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce qu'après une histoire avec un chandelier en or, avec de l'huile d'olive, où il y a un message à transmettre à Zerubbabel. Zerubbabel, roi, on n'a pas besoin de l'armée. C'est quelqu'un d'autre qui va faire la guerre. Parce que ce ne sera pas fait avec les muscles. Les soldats qui vont défendre le peuple juif, ils ne vont pas être comme les soldats de la tribu de Juda qui font de la musculation. Parce que ça ne marche pas avec Rabbi Roar. C'est une autre chose. Une autre chose. Ruchi Ruach HaKodesh. C'est eux qui vont défendre le peuple juif. Ici, le prophète, au début du deuxième Beth Amikdash, il a mis les rails. Comment fonctionne le deuxième Beth Amikdash? Ici, il a annoncé qu'il viendra une immense guerre pendant le deuxième Beth Amikdash, qui ne peut pas être gérée autrement qu'avec Ruach HaKodesh. Mais, il y a dans le Sivar de Hashmonaim, il raconte les batailles. Qui a fait les batailles? La première bataille a fait Matityahu. Et ses enfants, Yehuda, après Yehuda et Niftar, c'était Yohanan, après Niftar, Yonatan, et Lazar, et Shimon, un après l'autre. Ça a duré 25 ans, c'est toute cette histoire. Bataille après bataille, d'une façon phénoménale. Phénoménale. Incroyable. 300 personnes qui se lancent contre 20 000. 3000 soldats contre 80 000. Des fois, des enfants seuls. Ils attaquent 1000. Bataille après bataille, et ils gagnent. Phénoménal. Mais, au milieu, il est marqué une fois, je ne me rappelle pas si c'était Yehuda ou si c'était Jonathan, je ne me rappelle pas qui. Ils ont fait une bataille, ils ont gagné contre 20, 30 000 Grecs, avec peu de gens. Ils sont revenus. Après, ils ont dit, maintenant, je vais partir avec mon équipe là-bas, et vous restez ici, vous allez vous reposer, vous attendez que je revienne, après en faire une autre bataille. Alors, il y avait quelques personnes, ils ont dit, on gagne bataille après bataille, nous aussi, on peut gagner. Et il y avait deux personnes, des soldats, ils sont partis faire une bataille contre les Grecs, ils se sont fait zigouiller, 2000 soldats juifs sont morts. Et l'auteur de Sefer Hashmonaim, il écrit, pourquoi c'est arrivé? Parce que le chef d'armée n'était pas celui qui était de la famille, il n'était pas de la famille qui était désignée par le ciel pour faire la guerre. Le ciel a désigné la famille de Matityahu pour faire la guerre, eux ils gagnent. La bataille qui n'était pas faite par un chef de cette famille-là, perdue. C'est pour ça qu'ils ont perdu. Ça veut dire que dans le livre de Hashmonaim, c'était écrit les premiers deux livres. Il y a quatre livres, mais les premiers deux livres étaient écrits par les Hashmonaim eux-mêmes, par les enfants de Matityahu. Chacun il a écrit. Ça veut dire que la famille de Hashmonaim, ils savaient qu'ils sont une famille choisie par Dieu pour faire cette guerre. Ils savaient qu'ils étaient choisis. Où ils ont lu ça? Donc un livre d'histoire, ils ont lu. Parce que nous avons l'histoire, mais eux, ils étaient avant. Ils étaient... Parce qu'ils ont vu qu'ils ont gagné. Non. Ils savaient qu'ils étaient choisis. Parce que Moshe Rabbeinu nous dit qu'il y a une guerre. Et d'où il savait qu'il s'agit de Kohen Gadol. Mais ça, c'est dans Zecharia. Ils avaient bien le prophète. Yeshua Kohen Gadol, mais ça, c'est la famille. Le prophète a dit que cette famille doit être Kadosh, il doit bien faire la Torah, parce que c'est eux qui doivent après jouer le rôle que normalement Zerubbabel aurait dû jouer. Ça, c'est ce que le prophète leur a dit. Donc, ils avaient une Kabbalah qui viendra ce moment. Bien sûr, si d'autres juifs ne sont pas intervenus, pourquoi ils ne sont pas intervenus les autres? Soit parce que Zerubbabel leur a dit de ne pas le faire, soit parce qu'ils n'avaient pas le courage de faire, parce que personne ne pouvait le faire. L'histoire de Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé? C'était 52 ans de persécution. On persécutait les Juifs. Mais bon, ce n'est pas la première fois qu'on persécutait les Juifs. Mais ici, il y avait quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors ça, c'est la question de fond de toute l'histoire de Hanouka. Si toutes les guerres sont faites par tous les Juifs, par le roi de Juda. Et tous les 11 tribus, ils aident, sauf le tribu de Juda. Et ici, c'est les Kohanim qui prennent les... Donc, il y a quelque chose de spécial. Et pourquoi il fallait une autre guerre? Mais le Pshat, il est une guerre normalement dans le monde. Pourquoi on fait une guerre? Il y a beaucoup de guerres dans le monde. Ça a toujours existé, toujours. Chaque génération, dans tous les pays du monde. Pourquoi on fait une guerre? Ben, on veut s'accaparer l'argent de l'autre. On veut avoir des impôts de ce pays. Les autres, ils ont travail, ils ont d'argent, on va y, on prend leur argent. Et après, on dit aux gens, vous travaillez, vous nous payez des impôts. Ah, c'est comme ça qu'on fait une guerre. C'est pour ça que les gens, ils font la guerre. Eh bien, il faut défendre, on ne te laisse pas voler. À l'époque du Tanakh, le Tanakh du début jusqu'à la fin nous raconte ça. Et Aram est venu, et Moab est venu, et Midian est venu, et les Plishtim, ils sont venus, et tous les envahisseurs, et Paro, et Babylonie, et la Syrie, toujours ils ont envahi. Le Tanakh fait un calcul vis-à-vis du ciel. Si on fait la Torah, on ne fait pas la Torah bien, un truc, c'est en autre chose, on tourne avec le bon Dieu. Mais les Goïms, quand ils ont envahi, ils voulaient prendre Eretz Israël. C'est une terre où il y avait d'argent, où il y avait Eretz Zavat Chalavot Vach, ils ont envahi. Il fallait défendre, toujours avec une armée, évidemment. Mais la guerre contre les Grecs correspondait à la guerre que les Grecs ils ont fait aux Juifs. Mais la guerre des Grecs contre les Juifs était très spéciale. Il est marqué dans le livre de Hashmonaïm. Les Grecs n'ont pas en voulu à tous les Juifs. Seulement aux Juifs qui respectaient la Torah. Ils ont venu, ils ont dit aux Juifs, vous arrêtez de faire la Torah. Ils ont déchiré tous les Sefer Torah, ils les ont brûlés. Ils ont dit, ceux qui a un Sefer Torah à la maison, on le tue. Ceux qui fait la Brit Mila, on le tue. Aussi les parents, aussi le Mohel. Dans une maison, on fait la Brit Mila, on tue. Les gens qui font Shabbat, on les massacrait. Tous ceux qui étaient religieux étaient massacrés. On obligeait les gens de faire avérot, des grandes avérot, des immoralités. On les obligeait, on prenait les jeunes gens, on les amenait vers le péché. Ceux qui refusaient, on lui coupait la tête. C'est une guerre très spéciale. Ceux qui se pliaient, ceux qui transgressaient la Torah, eh ben, ils étaient honorés par les Grecs. Aucun problème. On les nommait chefs. Ils pouvaient devenir très riches. Aucun problème. Propre neveu de Yossi Ben Yehezer était le chef de tous les bandits juifs. Bandits. Pas bandits dans le sens bandits, dans le... Assimiler les juifs. Le propre nommé de Yossi Ben Yehezer sur son cheval blanc est venu Shabbat, toute l'histoire de la Gemara. C'était une guerre très spéciale. Et les Juifs, ils étaient écrasés. Ça durait 52 ans. La majorité des gens n'étaient plus religieux, comme ça a dit le Rambam. La majorité des gens ont abandonné la Torah. Ça qu'on dit dans l'Anissim. La Ashkicham Torah Chaksham Dalem Yavan Arshaim. L'ashkicham toratecha ou l'ahavira mechuker etzenecha pour faire oublier ta Torah et pour le faire transgresser tes mitzvot. Guerre très spéciale. Jamais ça a été comme ça. Haman a voulu exterminer les juifs. Religieux ou pas religieux, il n'y a pas de nafkamina comme Hitler. Hitler, tu fais Shabbat, tu fais pas Shabbat, c'est le même prix. Je veux pas le peuple juif. C'est le même prix. Mais les Grecs, ils ne voulaient pas en finir avec la race juive, mais avec la religion juive. Et ils ont réussi à décourager les gens de faire la Torah. Et il y a des descriptions, on le connaît un petit peu à gauche, à droite, tout le monde a déjà entendu des midrashim. Il faut lire le Hashmonaïm comment ça a été, un système de persécution pour ce que fait la Torah. Là, Matityahu, il a dit combien de temps ça va durer. Si j'interviens pas, c'est fini. Il n'y a plus personne qui va faire un Torah mitzvot. Nous sommes obligés d'intervenir. Nous sommes obligés de prendre. Et il est marqué, ils avaient des signes du ciel que le moment est venu. Et quand ils ont fait la guerre, qu'est-ce qu'on dit? Rabim beyad me'atim. Des nombreux sont tombés dans la main des peu nombreux. Mais beaucoup, dont peu, on peut dire 70 000 dans la main des 30 000, n'était pas comme ça. Et des chiffres sont phénoménaux là-bas. Les chiffres des soldats grecs. Rabim beyad me'atim, combien ils étaient les Hachmenim au début? Giborim beyad chalashim. Ils étaient giborim, les Grecs, c'était des soldats professionnels qui ont fait déjà beaucoup de batailles avant d'arriver. En Syrie, en Turquie, ils ont conquis le monde, les Grecs. Un professionnel et un amateur, c'est pas la même chose. Tu prends un bonhomme et tu lui donnes une épée, vas-y, fais la guerre. Quelqu'un a déjà fait la guerre, donne une épée, vas-y, fais la guerre. Je fais quoi? Où je fais la guerre? Comment? Il y a quelqu'un qui, depuis 5 années, il est à l'armée. Et depuis 5 années, il sait comment faire. Ils étaient giburim beat chalashim. Pire que ça, tmeim beat torim, des gens impurs dans la main des gens purs. Pas très compréhensible. Qu'on dit des nombreux dans la main de peu nombreux. Oui, c'est un miracle. Parce que la nature veut que les nombreux gagnent contre le peu nombreux. Que des forts tombent dans la main des faibles. Oui, c'est un miracle, parce que normalement, c'est les forts qui gagnent contre les faibles. Mais les impurs sont tombés dans la main des purs. Qu'est-ce que ce pur et impur, tekel dafkamina? C'est égal à égal. Qu'est-ce que ça change? Quoi? Dans la stratégie de guerre, ce qui est impur a la plus de chances de gagner que ce qui est pur? Oui. Parce que qu'est-ce que ça veut dire impur? Qu'est-ce que ça veut dire pur? Pur, ça veut dire, c'est la semaine, ils n'ont jamais tué une mouche. Ils ne savaient pas comment tuer une mouche. Comment on écrase une souris, ils ne savaient pas. Ils n'ont jamais fait des travaux comme ça. Yoro Mishpatech Aliakov, que le Korbanot au Betamikdash. Toucher un homme, se bagarrer avec quelqu'un. Se bagarrer, même pour la bonne cause. Quoi, être à Auchan, à la caisse de Auchan, un bon blond bac, un black Auchan. Ils sont à la caisse, ils ont toujours des gros. Comme ça, si quelqu'un y triche, il y a des gardiens. Mais ce n'est pas ça le travail des Kohanim, ils ne faisaient pas ce boulot. C'était des théories, on ne se bagarre pas. Ça ne veut pas se bagarrer. Rechaim beyat tzadikim, c'est un S. Des Rechaim, que depuis leur jeunesse, ils se bagarrent à l'école, ils comptent nos trucs, nos machines. Eh bien, on s'habitue. Mais les tzadik, ils ne font pas ce boulot. Les zéidim, des méchants, regarde, Oske Toratecha sont tombés dans la main de ceux qui étudient. Osek Batorah, il n'est pas Osek de se bagarrer. Il n'est pas Osek les Russes, comment on fait tomber quelqu'un. Il ne sait pas comment on fait des croche-pattes. Ils n'ont pas fait ça, les Kohanim. Osek Toratecha, Matityahu, et Ehud Maccabée et Lazar étaient des grands amis des Chachamim. Et avant de la bataille, marqué dans Sefer Hashmonaim, Matityahu, il a dit, on fait un jeûne, et après on fait la guerre le lendemain. Est-ce qu'on connaît une armée dans le monde qu'avant de faire la bataille, on fait un jeûne? Un jeûne? C'est-à-dire, déjà, ils étaient chalashim, sans aucune expérience. On sait que Batora, on fait les torsot et les rambam, comment ça fonctionne. Et maintenant, on va faire un ta'anit avant de faire la guerre. Et demain, on prend l'épée, et on rentre, et on massacre les 80 000 soldats armés jusqu'aux dents, et on rentre dedans et on fait comme ça. Et ça a marché. Parce qu'il y avait Ruchi. L'obachaïl, l'obachoar, qui imbe Ruchi. Mon esprit. Les Hashmonaïm, ils étaient animés par un esprit. Un esprit de quoi? Ruach HaKodesh. Il faut prendre des armes, il faut défendre maintenant la Torah. Et on va tuer les Hashmonaïm, les Grecs. Ils ont tué des Juifs aussi, pas que les Grecs. Matityahu, il a dit, ce Juif-là, qui n'arrête pas à manger Chazir, dans les prochains 3 jours, on lui coupe la tête. Ils ont coupé la tête à des Juifs aussi. C'est la folie. Un petit groupe des fanatiques. Petit groupe de fanatiques à la Daesh. À la Daesh. La pire qui existe au monde. Les pire crapule idiot dans le monde. Et eux, ils étaient Ruach HaKodesh. Eux, ils ont Ruach HaKodesh. Tu abandonnes maintenant la Chilul Shabbat. Menacé, ils ont allé contre les Juifs. Mais les Juifs qui n'étaient pas religieux, ils étaient majoritaires. Maintenant, on fait la Torah. Et tu viens chez nous. Et tu arrêtes maintenant de frayer avec les Grecs. Mais les Grecs, ils vont nous massacrer. Mais monsieur le rabbin, je veux bien être religieux, mais on ne peut pas. Mais je serai en danger. Tu viens avec nous. Je te coupe la tête. Alors le Grec veut me couper la tête. Il m'a dit, tiens, veut me couper la tête. Je fais quoi? Je n'ai pas deux têtes, moi. Et si j'ai deux têtes, il me coupe les deux. Un, il me coupe un, lui me coupe l'autre. Je fais quoi, moi? C'est un immense délai pour les Juifs. Et ils sont allés. Et ça réussit. Jour après jour. Semaine après semaine, mois après mois. 25 années, ça a duré. Très, très dur, ces guerres. Et ils ont ramené les Juifs à la Torah. Ça, c'est l'histoire de Hanouka. C'est une histoire très spéciale. Une histoire très spéciale. Il y avait beaucoup de guerres qui ont passé dans le peuple juif. Beaucoup de guerres. Mais on ne fait pas une fête. Même des guerres qui avaient beaucoup d'aide du ciel. Souvent, il y avait dans le Tanakh. Le Tanakh nous raconte des fois les goïmes étaient beaucoup plus nombreux que les juifs. Et les juifs étaient très peu. Et ça m'a fait des miracles à l'époque de Josaphat, à l'époque de Menaché Ben Yoas. Il y avait beaucoup de moments. Avec Sancheri, il y avait plein de merveilles qu'Hachem il a fait. Mais ça n'a pas donné lieu à une nouvelle fête. Mais pas seulement une nouvelle fête. Ce n'est pas seulement une question de fête. Quand le prophète, quand dans Daniel, on nous parle des quatre animaux qui vont se lever dans le monde contre le peuple juif. Le premier animal, c'est le lion, qui représente la Babylonie qui a détruit le premier Beth Amikdash. Et le deuxième animal, c'est l'ours, qui représente les Perses avec Ahasuerosh et Haman. Et le troisième animal, les Grecs, le tigre, le panthère, qui se lève. Et le quatrième animal, le terrible animal qui est la Rome. C'est donc inscrit, ça veut dire, dans l'histoire est inscrit qu'il y a un ennemi spécifique qui s'appelle le panthère des Grecs, que eux, ils veulent faire perdre le peuple juif en leur enlevant la Torah Mitzvot. Et la chute de la Grèce vient de Hashmonaïm. L'exil de la Grèce est terminé. Terminé. Babylonie est terminée. Les Perses est terminé, a terminé. Après le quatrième, il y a tout dedans. La Grèce pure a terminé. Après, dans la quatrième, il y a tout dedans. Ça joue. Quand la Chumash raconte Bereshit, Barei Lekim et Teshan et Taaretz, Vaaretz Aïta Tov, Vovo, Vochoshech Apnitom, Vouach Elekim, Marachefet Pne Amaim, Hashem, il a créé le monde. Et il y avait une obscurité dans le monde. La Haaretz hayta tohu vavohu, un balagan, v'choshech al pnei tohom, une obscurité. V'yomer Elokim yor v'yor, Hashem, il a dit que la lumière vient, et la lumière est venue. Évidemment, ces psukim au début de la Torah, c'est des enseignements sur différents niveaux. Au niveau des galaxies, de la création, de beaucoup de choses. Et au niveau de l'histoire du monde, et au niveau de la moralité, ce sont des bases, comment se déroulera tout ce qui se passe dans le monde. Et sur ça, Chachamim raconte, « Va'aretz ha'ita tohu », tohu, ça c'est les Babyloniens, destruction des premiers Kedash. « Bohu », ça c'est Haman. « V'choshech l'obscurité », ça c'est les Grecs. Alpne atom, la profondeur, ça c'est les Romains, ça c'est le christianisme, ça c'est l'exil que nous sommes. Voyom, Ruach Elokim, Rachev Epne Amaim, et de tout ça il va sortir le Ruach Elokim, Ruach de Mashiach. Voyom, Elokim, Yor, clac, Hashem, il met le bouton, met le doigt sur le bouton lumière, clac, la lumière arrive et le mal disparaît. Il va Yor, Voyom, Elokim, Yor, le mot Or, c'est le 25e mot. La Torah, la Gemara nous raconte, ça fait allusion en 25 Kislev. Ça veut dire que c'est inscrit dans l'histoire. c'est-à-dire les forces du mal, les forces qui veulent détruire le peuple juif, ils sont inscrits dans l'histoire. Et la chute de cette force du mal aussi. Et cette force du mal de la Grèce s'appelle Choshech, obscurantisme. Et le Hashmonaïm, il s'appelle la lumière. Là où certains appellent ça les lumières, ou l'obscurantisme, ça dépend qu'est-ce que tu mets dedans. Ah, ils mettent dans la lumière ce que lui veut. Ils mettent dans l'obscurantisme ce que lui veut. La Torah, elle a sa propre définition. Ça s'était prévu dans la démarche du monde. Et ça, c'est la fête de Chanukah. Behalel v'hoda'a. On remercie Hachem qui nous a permis, grâce au Hashmonaïm, il nous a permis de continuer à faire Torah mitzvot. Et ça c'est Bayamim Hahem, Bazmanazé, à leur époque, Bazmanazé à notre époque. Combien d'exérot il y avait après les Grecs? Que ce sera les communistes qui voulaient enlever la Torah, que ce sera au Moyen-Âge, que ce sera combien des endroits dans le monde il y avait une guerre contre la religion. Ça, c'est parce que Roïm, il a récupéré un peu, mais avec une telle puissance, assimiler les Juifs avec une telle puissance comme les Grecs ont fait, ça n'a jamais existé, ni avant ni après. Et pourquoi ça n'a plus existé après? Parce que les Juifs, ils avaient déjà Chanukah. Le Chanukah, le miracle de Chanukah après la lumière. Le miracle de Chanukah, c'est quoi? Ils avaient un petit flacon qui était suffisant pour une journée et ça durait 8 jours. Et pourquoi ils avaient qu'un petit flacon? Il y avait des litres, des tonnes de l'huile. Oui, mais les gars, ils sont venus avec une souris morte, ils ont mis dans chaque tonneau de l'huile, ils ont rendu impur. Mais Timou, Kola Shemanim, ils ont rendu impur tous les huiles. Au Minotar Kankanim, Naseles, la Shoshenim, il y avait Par Katan, Shemunach, Bechotamo, Shel Kohen Gadol. Un petit flacon qui a été posé, scellé par le sceau du Kohen Gadol. Qu'est-ce que ça signifie? Une petite fiole scellée avec le sceau du Kohen Gadol qui restait pur. Les Grecs, ils ont rendu impur tous les huiles. Un flacon leur a échappé, ils n'arrivaient pas. La règle dit comme ça. Ce qui se passe vis-à-vis du peuple juif correspond à ce qui se passe vis-à-vis des objets qui sont kadosh. Quand un Sefer Torah, Chas v'Shalom, il est brûlé dans le feu, il faut que tout le monde fasse ta'anit. Pourquoi? C'est un siman, un Sefer Torah brûlé. Ouh, c'est de mauvais augure. Ça signifie qu'on est en train de brûler la Torah, qu'on ne respecte pas la Torah. Donc le Sefer Torah brûle. Le Beth Mikdash est détruit. C'est un siman que le juif ne tourne pas rond. L'Aaron HaKodesh était volé par les Plishtim. C'est un siman que les juifs ne sont pas attachés à l'Aaron HaKodesh. Le Rav Yitzchak disait un mot. Pourquoi les Grecs ont interdit de faire le travail au Beth Mikdash? Pourquoi les Grecs ont interdit de faire la Torah? Et pourquoi, après que les Hashmonim sont venus, on pouvait faire la Torah? Le Rav Yitzchak, il a dit, Min HaShamayim du ciel, on enlève les mitzvot, et Min HaShamayim, on redonne les mitzvot. Ça dépend si tu veux ou tu veux pas. Si on méprise les mitzvot, le ciel, il l'enlève. Tu méprises, je te l'enlève. Eh bien, j'enlève le Sefer Torah. Ils ont brûlé les Sifrei Torah, les Grecs. Parce qu'il y avait des Juifs qui brûlaient les Sifrei Torah. Pas brûlés avec le feu. Il y avait des Tzedoukim, il y avait des Juifs qui commençaient à lui faire la Torah. Donc les Grecs, ils ont enlevé. Et quand les Juifs, ils voulaient la Torah, les Hashmonim, ils ont voulu, et ils ont provoqué que les Juifs, ils voulaient, eh bien, le Min HaShamayim, on redonne la possibilité. Quand il y a un Sefer Torah qui brûle, il faut faire un Ta'anit. Et quand on fait Achnasat Sefer Torah, il y a plus de lumière. Quand une synagogue Hashem est brûlée, il faut faire un Ta'anit. Quand une synagogue s'ouvre, c'est un jour de fête. la lumière revienne. Un petit flacon est resté pur pour nous dire qu'une famille est restée pure. Le petit flacon qui était scellé par le sceau du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'était Matityahu, Ben Yochanan, Hashmonaïm. Eux, ils étaient purs, eux, les Goyim ne pouvaient pas les toucher. Toute la picorsoute et toute la mécréance et toute la anarchie et toutes les immoralités qui existaient dans le monde grec, ils essayaient à rendre impur, il y a un petit flacon, le sceau du Kohen Gadol. Ça, c'est ce que Zecharia, il a dit, Yeshua Kohen Gadol, toi, tu es le premier Kohen du deuxième Beth Amikdash, toi, Yeshua. Oh, dis Moussar à tes enfants, que tes enfants, ils envoient les femmes interdites. Ta famille doit être Kadosh. C'est ça qu'il a dit. Imidrachai Telech, Kohamar Hashem Tzvaot. Comme ça, il dit Dieu des armées. Quand ça a ajouté le mot Tzvaot, quand Hachem, il s'appelle Hachem Tzvaot, Dieu, le chef d'armée, ça signifie, il y a ici une question de guerre ou de paix. Hachem Tzvaot, Hachem, il doit faire la guerre contre les forces du mal. Imidrachai telech, vimet mishmarti tishmor, vegam ata tadin et beiti, vegam tishmor et chatzaray. Si toi, tu tiendras bien le Beth Amikdash, sera très bien, très important, qu'au moins une famille reste kadosh. Quand une famille reste kadosh, même si tout le monde est devenu impur, on peut tout ramener. Ça, c'est la chorma. De la même façon qu'un homme impur peut rendre impur tous les huiles, un flacon de l'huile pure peut rendre après les autres purs. Ah, il n'y a que pour un jour. C'est pas grave. Le bon Dieu peut faire que cette huile brûle demain, et après demain, pendant 8 jours. Et le 9e jour, ils avaient déjà apporté d'autres villes. Tout ça signifie, ça y est, les Juifs, ils sont déjà rentrés. Ils ont fait le premier travail par Nes, par le miracle. Entre-temps, d'autres Juifs, ils ont déjà pris d'autres olives. Ils ont pressé, pureté, et ça a pu continuer. Ça, c'était l'histoire de Hashmonaïm, mais ça, c'est quelque chose. Car ils ont instauré, l'année d'après, ils ont instauré Hanouka, ça sera éternellement un Hanouka. Ils ont tout de suite compris Samsima Mina Shamaïm. Ce miracle nous a montré qu'on a gagné contre les Grecs. La lumière revient. Et l'obscurité ne peut pas gagner. Et l'assimilation ne peut pas gagner. Et les forces du mal ne peuvent pas gagner. C'est les forces du bien. C'est la lumière de la Kedusha qui va gagner. Oui?
Qu'est-ce que c'est une armée qui est Beruach HaKodesh, ça veut dire qu'il soit des tzadikim, parce qu'il n'y avait plus de prophétie après Zacharia, Haggai et Ezra et Nehemia, la prophétie s'est arrêtée. Qu'est-ce que ça veut dire ensuite au deuxième Beth Amikdash, il y a eu Ruach HaKodesh? Quelle est la différence entre Ruach HaKodesh et Nevoa prophétie?
La Gemara nous dit dans Masechet Yoma, Mishacharav Beth Amikdash, Nit la Nevoa. La nevoa a été enlevée et ils ont utilisé Bat-Kol. Bat-Kol veut dire la fille de la voix. La fille, ça veut dire un enfant, ça veut dire un écho. Alors, qu'est-ce que c'est un écho de prophétie? Qu'est-ce que c'est les prophéties? Ce n'est pas chez moi que vous allez en trouver, parce que je ne sais ni qu'est-ce qu'un ni l'autre, mais seulement une image. Comme on dit un miroir, la lumière. Le soleil est clair, et je peux mettre un miroir, et après c'est réfléchi. Hachem, il peut parler directement à un prophète, ou il peut parler à un mur, et la voix, elle revient, et on entend. Babaï Tcheni, il y avait Bat-Kol. Comment ça fonctionne, Bat-Kol, je ne sais pas. C'est une madriga inférieure à Nevoa. C'est une demi-Nevoa. On prend Vital, il dit, il y a beaucoup, beaucoup de degrés de Nevoa. C'est la voix du ciel qui a dit, faites la guerre, vous allez gagner, mais pas directement à l'oreille de Matityahu. Hachem, il a parlé quelque part, mais il a entendu le reflet, oui. Et ça veut dire quoi, Ruach HaKodesh? C'est une animation, un zèle, une conviction. Il entend, je dois faire cette chose. Et il est pris d'un courage. Il faut que je fasse ça. un zèle de Kedusha. Zèle, c'est quoi zèle? Empressement, idéalisme, enthousiasme, vite, conviction. On se donne entièrement du zèle de Kedusha, une conviction absolue avec un idéalisme. Je donne tout ce que j'ai pour un idéal supérieur que nous allons réussir. Et ça, ça bouillonnait chez eux. Et ils l'ont senti avec un esprit de clarté, un esprit de bonne midot, parce que être animé par une volonté de tuer, n'importe quel abruti peut. Tous les orgueilleux et tous les frustrés et tous les colériques et tous les abrutis et bagarreurs peuvent être pris. Oui, je suis investi par Dieu pour tuer. Parce que tu aimes de voir le sang, parce que tu veux voir que tu es le chef. Et Jésus, c'est autrement. Jamais pensé d'être le chef, jamais pensé d'être le dominé. Jamais pensé de moindre violence. Toute la bonté, toute la kedusha, oske toratecha, tori, pureté, pour Hachem, le Shem Shamayim, ils étaient animés avec cet esprit, avec un courage de folie. Il faut avoir un courage de folie. Mais un fou aussi peut avoir un courage. Mais le fou qui a du courage, c'est pas du courage. C'est de l'incon. C'est de l'incon. Il ne se considère pas. La vie, pour lui, vaut rien. Et pour eux, la vie est très importante. Et on fait confiance à Hachem, mais là, ça marche. Et ça c'est le Ruach HaKodesh de Pinchas. Maintenant, pourquoi c'était les Kohanim? Et pourquoi ce n'était pas une autre tribu? Cette Kushia, Moshe Rabbeinu répond lui-même. On va revenir au texte. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Où le Lévi Amar, Tumecha v'urecha l'ishchassidecha, l'urim v'tumim, c'est Ruach HaKodesh, urim v'tumim, c'est pas prophétie, c'est 2000 prophéties, l'ishchassidecha. C'est pour l'homme pieux, c'est pour Lévi l'homme pieux. Haomer l'avi v'ulimo l'oritiv, et techav lo ikir, et manav lo ida, kisham rum yitzecham, v'etach im tzorho, ça veut dire quoi? Que pendant les Egel, Moshe Rabbeinu dit, qui est-ce qui veut défendre l'honneur de Dieu? V'yaz v'elav kol b'nei Lévi. Et ivru v'shuv v'mishar el shar, ils ont tué leur propre famille pour effacer ceux qui ont fauté pour l'Egel. Ils ont gardé ton alliance. C'est quoi la Brit Mila dans le désert? Les Juifs n'ont pas fait la Brit Mila dans le désert. Pourquoi? Parce que le climat était insupportable. C'était une immense chaleur, il n'y avait pas de vent. Et on voyageait. Et c'est un peu dangereux pour un bébé de 8 jours. Dans des conditions comme ça. Et le tribu de Lévi, il a lui fait la Brit Mila. Pourquoi? Mais si c'est dangereux. Oui, mais ce n'est pas vraiment dangereux. On peut dire que c'est dangereux. Et si tu ne veux pas faire la Brit Mila, c'est ton droit. Mais le tribu de Lévi, il faut faire la Brit Mila. Même si les autres, nous, le font, et Dieu va nous protéger, il les a protégés. Il y a des fois quelque chose qui n'est pas un vrai danger, un peu. Et si tu as Bitochon Bashem, tu veux garder, tu as le droit de te mettre en danger. Ou Brit Chayensor, ou Pinchas, c'est lui qui était Mekane Leshem Hashem. Qui a défendu Dina? Shimon Velevi. Lévi, déjà, sa bar mitzvah, ils ont massacré toute une ville pour défendre Dina. Ce zèle, Kohanim Zerizim, les Kohanim sont Zerizim, ils sont zélés. Ils ont animé avec un esprit très spécial Lévi. Et comme ça, c'était dans le désert. Et dans le désert, quand il y avait tous les bêtises qu'il y avait dans le désert, le Lévi n'a jamais participé. Toujours Brit Chayensor, ils ont toujours gardé ce Brit. Donc, à Kadesh Baruch Hu le dit ici, pendant le deuxième Beth Mikdash, il arrivera un empire grec pour faire la guerre contre la Torah. Il me faut bien des gens qui défendent la Torah. Je vais nommer qui? Yehuda? C'est pas Shimon? Benjamin? Non, c'est pas ça. Il me faut des gens qui sont animés par un fanatisme religieux, une conviction, que toujours qu'ils ont ça dans le sang. Ou les Lévi Amar, eux qui ont dit à Omer la Vivimo, eux, Barech Hashem Chelo, Dieu qui va bénir son armée. Ou Poal Yadav Yetirtse, et ceux qui font vont être acceptés. Mais Hatz Madame Kanav, il n'y a que ces gens-là qui sont capables de mener cette guerre. C'est pour ça, cette guerre, Moshe Rabbeinu, il a il a attribué aux tribus de Lévi.
Comment ça se fait alors quand ils ont gagné ensuite la famille de Hashmonaïm, ensuite ça a été de Karim en style là.
Ça, c'est une tragédie. Après, ça tournait. Les cinq frères, Yehuda Maccabi, Elazar, Yohanan, Yonatan et le dernier Shimon, étaient tzadikim. Et après Shimon, eux, ils ont commencé à faire des relations avec les Romains, avec les Égyptiens, pour consolider. Ils ont fait une tragédie. Ils auraient dû redonner à la tribu de Yehuda la royauté. On a fini les guerres. Maintenant, c'est à Yehuda de gérer. Et ils considéraient qu'ils sont les meilleurs. Alors là, Shimon, il avait un fils qui s'appelait Yohanan, qui était le Kohen Gadol. Et les Sadduciens, ils ont tourné la tête. Et Yohanan Kohen Gadol était un bon type. Et les Sadduciens, ils se sont mis sur lui, ils l'ont abîmé. Et lui, il a un fils, Yann Nehemelech, qui a massacré les Chachamim. Après, Yann Nehemelech, il a deux fils, Aristoplus et Hourkenos, qui se disputent sur la royauté et qui entraînent le peuple juif dans une guerre civile. Et après, un d'eux, il amène Antipater, un chef d'armée romain. Et Antipater, il a un fils qui s'appelle Hérode. Et Hérode, il massacre toute la famille, il prend la royauté. Et ils ont fini, malheureusement, massacrer cette famille-là. Ils ont fait une erreur. Au début, tout était bien. Mais après, ça tournait. Mais la guerre de... contre la Grèce, ils ont gagné. Et ça, ça reste dans le peuple juif, la Torah est restée. Maintenant, eux-mêmes, c'est vrai, ils ont mal géré leur victoire. Il y en a des gens qui sont bien pour gérer la guerre, mais ils ne savent pas gérer la paix. Ça, c'est une autre chose. Tu as gagné. Tu as gagné la... la guerre, mais pour gérer la paix, c'est une autre chose. Ça, c'était, ils n'étaient pas faits pour ça. Ils ont fait une erreur. Lui-même, Shimon, le dernier des Hashmonaïm Tzadik, il se fait assassiner par son gendre, qui était un goy converti, de la famille des Ptolémées. Il a donné sa fille à un converti égyptien qui a tué son beau-père, Shimon. Ils ont voulu faire à tout prix, même Jonathan, il est parti à Rome, ils ont fait des... avec les Romains. Les Romains, ils sont montés, et les Juifs étaient devenus un empire. Les Hachemines, ils avaient un empire au Proche-Orient. Ils ont fait écrouler la plus grand, le plus grand. Il y avait deux ennemis des Grecs, les Romains d'un côté, les Juifs de l'autre côté. Et les Romains et les Juifs, avec les Hachemines, ils ont fait des pactes de l'OTAN. Ils ont fait un OTAN. Pacte, tu vas m'aider. Et 26 années, les Romains, ils ont tenu. Après, ils n'ont plus tenu. Et après, malheureusement, ça se... Et Yohanan Hourkenos, il a fait des erreurs. Il était allé conquérir. Il a conquis la moitié du Proche-Orient. Aujourd'hui, plein des immenses terrains, ils ont conquis. Ils sont devenus riches. Ils ont conquis l'Édom. Ils ont obligé de se convertir. Yohanan Hourkenos, il était influencé par les Sadduciens. Il les a obligés de faire le judaïsme, mais ils ne voulaient pas faire le judaïsme. Ils ont fait un demi-judaïsme. Comme dit Rabbi, le fils du Rambam, c'est eux qui étaient les premiers chrétiens après. C'est pour ça qu'on dit les chrétiens, c'est Édom. Comment c'est quel rabbin Édom? Parce que Yohanan Hourkenos, il a converti le peuple d'Édom. Et il les a obligés de faire la Brit Mila contre leur gré. Il les a obligés de faire Shabbat. Ils ne voulaient pas. Et ils ont resté des. Comme ça, Flavius raconte, ils ne voulaient pas faire la Torah, mais il les a obligés. Donc ils sont devenus des demi-juifs. Mais ils ne voulaient pas faire la Torah, on les a obligés. C'est eux qui sont devenus... Eux, ils étaient récupérés, après ils se sont mis ensemble avec les Samaritains. Les Samaritains, c'était aussi des demi-juifs. Et moitié fait le judaïsme, moitié fait pas. Après les Sadduciens, et après eux, ils ont fabriqué cette nouvelle religion. Mais les premiers... C'est comme ça, machement aussi, de Kuzari. Les premiers bataillons de christianisme venaient de ceux Édom, de ceux qui étaient convertis. D'ailleurs, ça, c'était la bêtise. Ils ont fait des bêtises. C'était le fils de Shimon. Shimon était encore en tzaddik et son fils, il était déjà, il avait des idées non conformes.